Stéphane Fier vit dans le monde chinois depuis 20 ans. C'est cette expérience de la Chine au quotidien qui lui a permis d'être si juste, lui qui se sent proche de ceux qu'on méprise. Je lui ai demandé ce qu'il faisait en Chine.
En Chine, je suis guide interprète depuis 3 ans et je vis à Shanghai. Et je suis guide interprète freelance pour des VIP, pour des délégations, pour des petits groupes que j'emmène visiter les anciennes capitales impériales de Chine, c'est-à-dire Pékin, Xi'an, Luoyang, Kaifeng, Nanjing, Hangzhou. Et donc c'est ce que je fais là-bas. Et puis je suis aussi interprète. Donc il y a des délégations françaises qui vont en Chine ou des délégations chinoises qui vont en France. Je sers d'interprète parfois. C'est du freelance. J'ai pas un contrat rémunéré avec un ministère ou quoi que ce soit.
L'Asie, vous la connaissez depuis longtemps?
Oui, alors l'Asie, je la connais depuis 20 ans parce qu'en fait, j'ai quitté la France en 84 et je suis parti vivre à Taïwan. J'ai vécu 2 ans à Taïwan et là-bas, j'apprenais le chinois et j'apprenais à faire du business. Je travaillais dans une compagnie d'import-export taïwanaise et donc j'ai appris à faire du business avec des Chinois. Et puis ensuite, je suis parti aux États-Unis avec une Chinoise qui est devenue ma femme. Et donc, ça fait 20 ans que je suis immergé dans le monde et la culture chinoise, puisque, comme je vous le disais, je parle chinois tous les jours, je mange chinois tous les jours, et donc j'ai inconsciemment acquis une certaine forme de comportement, de manière d'agir, de mode de pensée chinois, quoi. Tout en restant en France, évidemment, il faut pas non plus exagérer. Mais donc inconsciemment, toute cette espèce de terreau chinois a dû pénétrer à travers mes veines, et donc ce qui fait que je suis une espèce de mutant, mi-français, mi-chinois.
Alors, vous vivez à Shanghai depuis quelques années. À quoi ressemble la ville aujourd'hui?
Eh bien, la ville, depuis quelques années, devient très belle. Là aussi, je vais peut-être être un peu iconoclaste en disant ça. Il y a quelques années, ils ont commencé à raser à peu près tous les anciens quartiers traditionnels pour bâtir des immeubles d'habitation ou de bureaux, un peu sans y penser, quoi. Je veux dire, sans réflexion ni rien du tout. Et depuis 2-3 ans, justement, au contraire, il y a une sorte d'effort consenti apparemment de la municipalité pour justement garder certains quartiers traditionnels et puis construire des buildings ou des immeubles qui soient pas simplement des genres de grands HLM de 50 étages, quoi. Et alors, notamment dans ce qui est l'ancien quartier de la concession française, donc le centre en fait de Shanghai, il y a la place du peuple. Et qui est devenu magnifique. Il y a tout autour de la place du peuple, ils ont construit des immeubles de très hauts et qui sont absolument magnifiques. Tout ça avec un grand nombre d'espaces verts. Ils ont compris aussi que les espaces verts, c'était quelque chose d'important. Et il y a de plus en plus d'espaces verts à Shanghai. Alors donc, il y a à la fois un effort pour essayer de conserver le passé, pas le détruire complètement, mais enfin, ils en détruisent encore quelques-uns parce que pour des raisons d'insalubrité, etc. Donc il y a quand même malgré tout un effort pour conserver le passé. Deux, on construit des trucs modernes, mais qui sont jolis, qui sont beaux, et qui sont vraiment très beaux. Et là, je dis ça sans emphase ni quoi que ce soit. Et puis trois, il y a une politique d'espace vert. Il y a énormément d'espace vert à Shanghai, qui d'ailleurs surgissent très rapidement, pratiquement du jour au lendemain, dans la ville. Et quatrièmement, on peut marcher à Shanghai dans les rues. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on ne peut plus faire à Pékin, par exemple. Et marcher dans les rues de Pékin, c'est un plaisir. Dans les rues de Shanghai, c'est un plaisir absolument indicible. Surtout quand c'est dans la concession française, vous avez ces allées de platane, vous savez ces vieilles maisons qui ont été construites par les Européens dans les années 1920-1930, qui sont plus ou moins délabrées. Mais il y a encore une atmosphère un peu européenne, si vous voulez, du début du XXe siècle, qui est très agréable. Et donc le fait de pouvoir marcher dans Shanghai, c'est aussi un plaisir tout à fait particulier.
Votre quartier préféré, c'est la concession ou un autre?
La concession, elle est grande, la concession française. Donc, vous pouvez marcher pendant des heures là-bas sans vous fatiguer. Mais je connais bien, j'ai toujours marché 3 ou 4 heures par jour à Shanghai. Et donc, je connais très bien le quartier de la concession, mais je connais aussi les quartiers qui sont un peu plus au nord ou à l'ouest, là qui sont des quartiers plus populaires, qui se bâtissent aussi énormément. Il y a beaucoup de nouveaux immeubles. Certains immeubles traditionnels aussi des années 1920-1930 qui sont en train d'être retapés aussi. Il y a tout le quartier qui est autour de la rivière. Il y a une rivière qui traverse Shanghai, la Suzhou. Et donc il y a tout un effort de rénovation aussi qui est fait par la municipalité pour essayer de garder ce caractère aussi un peu traditionnel mêlé à la modernité. Et donc en fait je connais bien, et puis puisque je suis guide, donc je fais voir le quartier entre guillemets de la concession française qui est quand même très grand, Et puis il y a pas mal de temples qui sont en dehors de la concession. Il y a deux temples au nord de la ville, il y en a un au sud, il y a le temple de Confucius, plus des quartiers un peu branchés, si vous voulez, qui sont au nord de la ville aussi, près des universités. Et donc c'est des quartiers qui sont aussi très agréables.
Alors vous venez de publier La promesse de Shanghai. Pourquoi écrire sur les Mingong aujourd'hui ?
C'est une bonne question à laquelle j'aurais du mal à répondre, en fait, parce que j'ai écrit le roman d'une manière complètement instinctive et intuitive. Il n'y a pas eu de plan, il n'y a pas eu d'objectif, il n'y a pas eu de structure, il n'y a rien eu du tout comme ça. Je me suis retrouvé simplement un jour à la bibliothèque de Shanghai en train d'écrire. Et j'avais commencé par écrire un truc sur Xi'an, parce que je vais souvent à Xi'an et c'est une ville que je connais bien. Et je racontais l'histoire d'un paysan chinois habitant à Xi'an. Et puis petit à petit, l'histoire s'est développée sans que je sache du jour au lendemain ce qui allait se passer. Et donc ce paysan à Xi'an a été obligé de partir, de quitter sa province, comme ça arrive à beaucoup de paysans chinois, qui sont souvent expropriés de leurs terres et qui vont chercher du travail dans les provinces côtières. Et donc ce paysan s'est retrouvé expulsé un jour et finalement il atterrit à Shanghai. À Shanghai, il commence à trouver du travail. Et là, petit à petit, il y trouve du travail. Donc il va falloir parler de sa vie quotidienne, des gens qu'il rencontre, de ses amours, de l'environnement un peu qu'il côtoie à Shanghai. Et donc le roman s'est déroulé comme ça. Et alors pourquoi j'ai parlé d'un Mingong et donc d'un professeur d'université ou d'un expat et tout, c'est parce que je sais pas. Alors là aussi c'est intuitif, mais il me semble que peut-être quelque part inconsciemment, j'ai peut-être plus de respect et d'estime pour ce genre de personnes. Tous ces gens qui sont complètement exploités, qui sont exclus, défavorisés, miséreux, mis à l'écart, etc., dans leur propre pays, et puis qui ont que leurs bras pour travailler, quoi, pour s'en sortir. Et donc à Shanghai, les Mingong, on les voit, ils sont absolument partout, parce que donc la ville se construit énormément. Donc qui dit chantier de construction, dit ouvrier pour travailler, pour les construire, ces chantiers de construction. Et donc quand vous vous baladez dans les rues, comme je me balade, les chantiers de construction, vous ne pouvez pas ne pas les voir. Et donc vous voyez en même temps les Mingong qui travaillent dessus. Donc vous les voyez, vous voyez leurs dortoirs, vous voyez les restaurants où ils vont manger, vous les voyez assis sur le bord du trottoir en train de manger, en train de jouer aux cartes le soir et tout. On ne peut pas ne pas les voir, quoi, en fait. Et donc de ce vécu, en fait, puisque je suis là-bas et je les vois tous les jours, j'ai peut-être eu plus de facilité pour mettre en scène leur quotidien, quoi, en fait. Et puis ensuite, la deuxième raison, c'est ce que je vous dis au début, c'est que je préfère parler de ces petites gens, de ces moins que rien, de ces pauvres, de tous ces déracinés qui vivent dans des conditions abominables. Et j'ai plus d'affinité avec eux, quoi, on va dire. Même si ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça. Mais en fait, ça l'est pas tellement, quoi. Je me sens plus à l'aise avec ces gens-là que, par exemple, à discuter avec un cadre du parti ou un Shanghaïen enrichi dans l'immobilier ou un professeur d'université, tout souvent, même en France d'ailleurs. J'ai souvent du mal à parler avec des gens d'un niveau culturel plus élevé.
Ça veut dire quoi, Mingong ?
Mingong, ça veut dire paysan déraciné, en fait. Ça veut dire que ce sont des paysans qui quittent leur province pour aller chercher du travail dans les provinces côtières. Et c'est pas un terme nouveau, hein. Déjà, à travers l'histoire de la Chine, des Mingong, il y en a déjà eu. Des paysans qui quittaient leur province et leur campagne à cause de la misère ou de rébellion, etc., et qui allaient ensuite chercher soit du travail, soit qui participaient à des rébellions, etc., c'est pas nouveau, quoi. Le terme de Mingong, c'est pas un terme nouveau. Mais là, spécifiquement, on emploie ce terme en ce moment pour désigner ces ouvriers qui travaillent dans le bâtiment ou dans les usines de confection et qui sont tous originaires de la campagne. Et vous savez qu'en Chine, normalement, on a le droit de quitter sa province, hein, sa campagne et tout, pour des raisons de contrôle social. Et donc, ils viennent travailler officieusement dans donc les provinces côtières, hein, qui vont du nord au sud, qui se développent beaucoup plus rapidement pour des raisons évidentes que les campagnes. Donc ils vont chercher du travail là-bas. Et ils sont clandestins, en fait, parce que normalement, ils n'ont pas le droit de quitter leur campagne, leur village, leur district. Et dans ces provinces où ils vont travailler dans les villes, etc., ce sont des clandestins, ce sont des émigrés de l'intérieur, en fait. Ils n'ont pas officiellement de statut. Ce qui fait que, par exemple, ils n'ont pas droit aux assurances sociales, ils n'ont pas droit à toute sécurité sociale, ils ont tous les services gratuits ou payants auxquels ont droit les résidents de telle ou telle ville. Eux, ils n'y ont pas droit. Ceci dit, depuis quelques années, là, au moins à Shanghai, la municipalité commence à faire des efforts justement pour essayer d'améliorer le sort de ces Mingong et qu'ils puissent au moins avoir la possibilité de se faire soigner ou d'éduquer leurs enfants quand ils les amènent avec eux.
Vous en avez rencontré, vous avez discuté avec eux ?
Non, non, alors là, je suis romancier. Hein, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas sinologue, je ne suis pas essayiste ni sociologue. Et donc, je ne me suis pas mis derrière un Ming-Kong ou des Ming-Kong et aller suivre 24 heures sur 24 et alors poser des questions. J'aurais pu le faire parce que je parle le chinois. Et alors poser des questions sur... Non, c'est simplement le travail d'un romancier, en fait, quand il fait bien son travail, j'espère que je le fais correctement, c'est de se mettre dans la peau de ses personnages. Même si la réalité autour de ces personnages est réelle et véridique ou vraisemblable, les personnages sont tous fictionnels. Et donc le talent d'un romancier, en fait, est de pouvoir se mettre à la place de ces personnages, cette capacité à rentrer dans leur âme, en fait, qu'il doit faire, et c'est donc ce qui s'est passé. Alors, donc pour répondre concrètement à votre question, non, j'ai interviewé personne, mais du fait que je vis dans le monde chinois depuis 20 ans, que j'ai étudié la culture chinoise, son économie, son histoire politique, le fait que je parle chinois, que je vis dans ce monde-là, ça m'a un peu aidé et probablement à pouvoir en parler un peu mieux, quoi. Mais ceci dit, encore une fois, je suis romancier, je suis pas... Les personnages sont fictionnels, les situations sont fictionnelles, même si tout ce qui est autour, le terreau, l'environnement qui est autour, est réel. Et donc quand vous lisez le livre, vous aurez l'impression que, effectivement, tout est vrai. Les personnages sont fictionnels, mais ils sont vrais. Tout ce qui est autour, les rues, l'environnement économique, l'environnement social, il est vrai, ou véridique, ou c'est des trucs que j'ai pu lire dans la presse chinoise, ou dans la presse chinoise traduite en anglais, ou ce que j'ai pu entendre dire, ou ce que j'ai pu écouter, et donc tout ça est ressorti en même temps. Mais donc le background qu'il y a derrière ces personnages fictionnels, lui, est vraiment réel et vrai. Et donc, à la limite, avec le livre, vous pourriez vous balader dans Shanghai, et puis vous reconnaîtriez, il parle de la rue machin, là voilà, la rue machin, avec le magasin truc, le restaurant chose, et tout est là, quoi. Même si parfois j'ai un peu changé les noms, ou j'ai inventé les noms. Mais l'environnement du bouquin, tout est vrai, ou véridique, ou vraisemblable.
Mais justement, ça fait penser à un docu-fiction, en fait. Moi, quand je l'ai lu, ça faisait comme les films de docu-fiction, où c'est entre le documentaire et la fiction. Et finalement, pourquoi vous avez choisi ce biais du roman pour dire quelque chose de très actuel et finalement qui est un combat social ?
Ah non, mais je dis rien du tout. Hein. J'ai aucun message à faire passer, ni quoi que ce soit. Hein. C'est pas du tout un docu-roman ou un roman docu ou un fiction-roman. C'est un roman, quoi. Donc c'est une histoire. Je raconte une histoire. J'ai pas cherché à dénoncer ou à dénoncer un mode de vie ou des comportements. C'est des choses naturelles, en fait. La corruption, par exemple, à Shanghai, même en Chine, c'est des choses qui sont connues de tous, qui sont presque normales et qui, à la limite, naturelles. Et donc, ça, pour prendre l'exemple de la corruption, ça a toujours existé en Chine, à des degrés divers et à des moments différents. Mais ça a toujours existé. Donc, c'est pas quelque chose de scandaleux ni surprenant. La prostitution, ça a toujours existé, que ce soit en Chine ou ailleurs. Là non plus, ça n'a rien, entre guillemets, ni de scandaleux, ni de... C'est une réalité, quoi, qui existe. Et donc, cette réalité qui existe, et voilà, j'en parle, mais j'ai pas eu d'effet de manche ou d'une volonté d'essayer de dénoncer ou de montrer les choses sous un jour noir. En fait, ce que j'ai montré, c'est une autre réalité. La réalité qu'on a de la Chine en Occident, c'est souvent cette espèce d'Eldorado où tout peut arriver, où les Chinois s'enrichissent à vitesse grand V, il y a des classes moyennes qui surgissent dans tous les sens, tout le monde peut s'acheter des voitures. En fait, c'est faux, il y a une autre réalité. Il y a l'envers du décor, quoi, en fait, et c'est ce que je raconte. Mais je le raconte d'une manière tout à fait naturelle et tout, sans parti pris, sans non plus avoir envie de dénoncer quoi que ce soit. Mais je ne suis pas du tout, je suis pas sociologue ni journaliste, je n'ai pas envie de dénoncer quoi que ce soit, je raconte simplement, je raconte une histoire. Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Hein, c'est pas... Mais en écrivant le bouquin, je me suis pas dit, en chapitre 2, j'ai parlé de la corruption, puis pour dire que c'est vilain, c'est méchant, c'est pas beau. Dans le chapitre 3, je parlerai de la prostitution en prenant l'exemple de telle ou telle fille. Et puis après, tout le monde comprendra que la prostitution boue, c'est méchant, c'est horrible. J'ai pas du tout écrit le bouquin dans cet esprit-là. C'est vous ensuite qui l'interprétez.
Non, mais rien qu'en nous montrant la réalité, ça suffit, en fait.
Et c'est déjà pas mal. Mais cette réalité, je veux dire, elle existe aussi. C'est pas la réalité de la Chine, un Eldorado où tout est possible, est aussi vrai. Mais ce n'est pas la seule réalité. Et donc, il y en a beaucoup, la réalité que je raconte, c'est une réalité aussi. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Hein. La vie dans les campagnes, c'est complètement différent. La vie des paysans dans les campagnes est complètement différente du Mingkong à Shanghai. La vie même de classe moyenne dans des villes différentes en Chine est complètement différente. Une personne d'une classe moyenne, entre guillemets, ne vit pas de la même façon à Pékin, à Shanghai, ou à Xi'an, ou à Nanjing. Ils ont tous des... Le mode de développement est différent, et les étapes du développement sont différentes suivant les villes, suivant les provinces, suivant les régions. Donc en fait, il y a des réalités, il y a autant de réalités qu'il y a les limites de provinces, de villes, de districts et de bourgs.
En tant qu'étranger, comment vous vous intégrez en Chine? C'est facile?
Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai pas l'impression d'être étranger là-bas. Je le suis parce que mon faciès c'est blanc. Et donc, chaque fois qu'un Chinois me voit, il me montre du doigt en disant « Lao Wei », donc « ami étranger ». Moi, j'ai pas cette impression, en fait. J'ai pas l'impression d'être étranger.
Donc, c'est facile de communiquer avec les Chinois.
Alors, pour répondre à cette question, est-ce qu'il est facile de communiquer? Moi, ça m'est relativement plus facile parce que je parle la langue. Et déjà, le fait de la parler, ça abolit un certain nombre de barrières ou de distances que vous pourriez avoir avec votre interlocuteur. Ça aurait été la même chose si je parlais espagnol en Amérique latine, anglais aux États-Unis, je sais pas quoi. Avec les Chinois, c'est plus prononcé. Pour eux, un étranger qui parle leur langue, même si on le parle mal et tout, il a fait l'effort d'apprendre notre langue, donc il y a quelque chose déjà, une sympathie immédiate. Après, je veux dire, vous en faites ce que vous voulez de cette sympathie immédiate et tout, ça peut donner quelque chose, ça peut rien donner du tout. Mais le fait de parler la langue, surtout en Chine, ça aide beaucoup dans les rapports avec les gens. Et pour ce qui est de ma belle famille, par exemple, donc ils sont chinois, ils parlent chinois, etc. Et eux, je me suis tellement bien intégré avec eux que quand on est ensemble et qu'on parle des étrangers, moi je fais partie du groupe. Les étrangers, c'est les Français, c'est les Américains, c'est pas moi. Et moi je parle des étrangers en les désignant sous le terme d'étrangers aussi. Je les appelle là, ouais. L'Américain là-bas, c'est pas un Américain, c'est un étranger. Le Français qui est là, c'est pas un Américain. Un Français, c'est un étranger. Et quand ma famille, ma belle famille ou mes amis chinois, on est ensemble et qu'on est amené à parler, on parle de beaucoup de choses, on parle pas des étrangers, hein. Il faut pas non plus exagérer. Mais quand on en voit un, moi je suis pas l'étranger qui est dans le groupe chinois, je suis dans le groupe chinois. Et dans le groupe chinois, on parle des étrangers.
Ça veut dire qu'il y a une faculté d'osmose quand même des Chinois.
Non, c'est le contraire. C'est les étrangers qui s'inisent. C'est pas les Chinois qui se barbarisent ou je sais pas quoi. Alors là, je m'inscris en faux contre ce que vous dites. Il y a absolument aucune osmose. Des Chinois avec le monde extérieur. C'est le monde extérieur qui peut ou qui ne peut pas se siniser ou approcher un peu le monde ou la culture chinoise. Mais l'inverse n'est pas vrai. Et c'est d'autant moins vrai que quand vous avez des Chinois qui émigrent et qui vont vivre et qui s'installent en Amérique, en Europe, en France, dans n'importe quel pays du monde, ils peuvent y vivre là-bas depuis 10, 15, 20, 30 ans. Quand ils parlent des habitants du pays dans lequel ils sont, ce sont les étrangers. C'est pas eux les étrangers dans le pays. Ce sont les... C'est anecdotique, mais non, c'est pas anecdotique parce que ça montre vraiment la puissance de la culture et de la civilisation chinoise. Aux États-Unis, quand on vit aux États, quand je vivais aux États-Unis dans la diaspora chinoise et tout, c'était pas nous les étrangers, c'était les Américains qui étaient étrangers. Et quand on parlait d'un Américain, on disait encore une fois là, ouais. Ou là, mais un étranger américain, alors que l'Américain, il était chez lui en Amérique. Et les étrangers, c'était les Chinois. Eh bien non, le Chinois parle de l'Américain comme étant un étranger. Donc il n'y a pas d'osmose du tout entre le monde chinois et l'extérieur. C'est l'extérieur qui vient au contact du monde chinois. Le monde chinois ne va pas aller vers l'extérieur. La civilisation chinoise, selon dans l'inconscient collectif chinois, c'est ce qu'il y a de mieux. Ils ont la certitude de la supériorité de leur civilisation. Donc c'est les gens qui viennent à eux, c'est pas eux qui vont aux autres. Les gens viennent vers eux et se prosternent et devant la qualité de leur civilisation, son passé, etc. Mais il n'y a absolument aucun effort, de pas en avant de la Chine ou du monde chinois ou d'un Chinois pour essayer de se mettre à la place ou dans la peau d'un étranger ou quoi que ce soit. C'est pas possible, ça. C'est le sinocentrisme, en fait.
C'est impressionnant. Et comment...
Non, c'est pas impressionnant du tout, c'est fascinant, au contraire.
Oui, bah oui. Et vous, en tant que donc étranger ou pas étranger, vous vivez en Chine, comment vous voyez l'avenir de ce pays depuis les 20 dernières années? Déjà, ça a tellement bougé. Et puis là, vous allez, il suffit que vous partiez 3 mois, 4 mois, et hop, ça aura déjà bougé. Donc comment vous voyez ça?
Déjà bougé, il ne faut pas exagérer, non. C'est vrai, on a souvent tendance à dire, effectivement, il suffit de partir. On va prendre l'exemple de Shanghai, hein, puisque c'est la ville qui bouge le plus en Chine. Enfin, l'une des villes qui vole le plus. On dit toujours, ah ben tiens, je vais partir de Shanghai pendant 3 mois ou 6 mois, je reviendrai, la ville aura complètement changé. En fait, pas du tout. Il y a des immeubles qui se construisent vite. Il ne faut pas le nier, hein, je veux dire, les gens travaillent là-bas 7 jours sur 7, même la nuit. Donc les constructions se font rapidement. Mais construire un immeuble de 30 étages, ça ne se fait pas en 3 jours, ni même en 6 mois. Ça met quand même 2 ans hein, à se faire. Donc ça ne bouge pas tant que ça. Ce qui bouge par contre énormément, ce sont les petits magasins qu'il y a dans les rues des villes. Et là, très, très souvent, vous pouvez avoir un magasin. Ben aujourd'hui, tiens, c'est un magasin de thé. Vous revenez 3 mois plus tard, c'est un magasin de vêtements. Vous revenez 6 mois plus tard, c'est un magasin de chaussures. Un mois plus tard, ce sera un restaurant. C'est ça qui bouge beaucoup, les petits restaurants, enfin les petits magasins. Parce que là aussi, la façon dont les Chinois ont travaillé, c'est d'aller très très vite, d'essayer d'aller le plus vite possible, de casser les prix. Et une fois qu'on a ramassé sa mise, on passe à autre chose. Et donc c'est pour ça qu'il y a un renouvellement souvent extrêmement rapide de ce genre de magasin. Mais pour ce qui est de l'architecture ou des buildings et tout, ça ne change pas aussi vite. Et même les bars pour étrangers ou ce genre de choses, ça ne change pas non plus très rapidement. Il y a une rue à Shanghai où il y a beaucoup de bars pour étrangers qui s'appelle Maoming Lu, dans la concession. Bon, les bars sont là-bas depuis 4 ou 5 ans, ils sont toujours là, ils sont toujours aussi fréquentés. Il y a peut-être une boîte de nuit qui va surgir un peu plus rapidement, puis qui va prendre la place de tel ou tel autre, parce qu'elle aura été branchée, entre guillemets, un peu plus vite, ou enfin pendant un mois ou deux, puis après, on passera à autre chose. Mais j'ai pas l'impression que les choses bougent de la façon dont vous le décrivez. Moi, je pense que les choses, ça se fait plus en sous-main, quoi.
En profondeur. En
profondeur, quoi. Plutôt que la réalité qu'on voit des immeubles qui poussent comme des champignons et tout, c'est vrai qu'ils poussent beaucoup, mais c'est pas aussi rapide qu'on ne le dit, quoi. J'ai pas cette impression-là. À Shanghai, par contre, ce qui bouge, effectivement, c'est cette espèce d'exubérance, d'agressivité qui rentre les gens dans les rues, dans les magasins, etc. Là, vous sentez qu'on est là pour gagner de l'argent et à n'importe quel prix et n'importe comment. Ça, c'est vraiment très particulier à Shanghai. Il y a une réelle agressivité entre les gens là-bas. Il n'y a aucun respect de l'autre. L'autre n'existe pas à Shanghai. Par contre, dans d'autres villes de Chine, des grandes villes, on va dire, que ce soit Pékin, Wuxian, Nanjing, les gens sont beaucoup plus, entre guillemets, calmes, plus souriants, plus sympathiques, un peu moins stressés. Un peu moins, il faut que je gagne de l'argent, et pour en gagner, il faut que je t'écrase. Et c'est moi qui dois t'écraser, c'est pas toi qui dois m'écraser. C'est un peu la loi du plus fort à Shanghai. Dans les autres villes chinoises, c'est pas du tout comme ça.
Mais est-ce que Shanghai ne préfigure pas la Chine entière de demain?
Ben, Shanghai a toujours été un cas particulier en Chine. Je vous rappelle qu'en 1842, là, le traité de Nankin, là, à la suite de la guerre de l'opium que les Anglais avaient gagné, ils ont demandé l'ouverture d'un certain nombre de ports. Et Shanghai était l'un de ces ports qui était ouvert au commerce avec l'Occident. Donc ça fait 150 ans que Shanghai est une ville, entre guillemets, cosmopolite. Donc il a toujours été habitué à voir des étrangers et à commercer aussi bien économiquement, commercialement, culturellement, politiquement, avec l'étranger. Donc c'est une ville qui est vraiment très particulière en Chine. Il faut pas... C'était un port ouvert, un port franc depuis 150 ans, donc un port cosmopolite, donc beaucoup plus en contact avec l'Occident. Le reste de la Chine, c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas... Les choses ne sont pas vécues de la même façon.
Vous pensez que ça ne changera pas?
Quoi donc?
Dans le reste de la Chine, l'influence de Shanghai...
Les choses vont changer, mais elles changent, à mon avis, au rythme de la Chine et non pas au rythme de l'Occident. Shanghai bouge au rythme de l'Occident. L'Occident imprime un peu son empreinte à Shanghai parce qu'il faut être le plus branché possible, avoir la plus grosse voiture, le plus beau sac Vuitton, la plus belle montre Cartier, le plus grand appartement avec le mobilier le plus européen qu'il faut, possible. Et donc là, c'est vraiment l'Occident qui marque de son empreinte le développement économique de Shanghai. À l'inverse, dans les autres villes de Chine, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. S'il y a développement, s'il y a modernisation et tout, c'est au rythme de la Chine, c'est selon leurs critères et non pas non pas les nôtres. Ce serait faux de croire, de s'imaginer que, d'abord, un, que Shanghai représente la Chine, et que, deux, l'Occident peut avoir une quelconque influence, à mon avis. Là, c'est mon avis personnel, hein. Vous n'êtes pas du tout forcé de penser de la même chose que moi. Mais c'est une vue d'esprit de penser que l'Occident peut avoir une influence quelconque sur le développement, alors que ce soit culturel, politique, économique, social, de la Chine hors de Shanghai. Moi, j'y crois pas trop à ça. Les Chinois, ça fait quoi, 4000 ans qu'ils sont chinois. C'est pas du jour au lendemain qu'ils vont changer.
Non, c'est juste l'argent qui peut les faire changer.
Mais pas forcément non plus. Alors, à Shanghai, c'est sûr, c'est l'argent qui fait bouger les choses. Mais encore une fois, il y a des classes moyennes qui commencent à émerger, dans les provinces côtières. Est-ce que c'est l'argent qui les fait changer ? Non, c'est le fait de travailler, d'avoir plus d'opportunités, de travailler pour soi ou de monter sa propre entreprise et effectivement de gagner de l'argent, d'élever le niveau social de sa famille, de ses enfants, de ses grands-parents ou de ses parents, de pouvoir s'acheter éventuellement un appartement un peu plus grand avec de l'eau courante et l'électricité. Mais c'est pas, ça n'a rien de scandaleux, je veux dire, c'est pas, ça me paraît tout à fait normal. Je veux dire, vous avez la possibilité de pouvoir gagner mieux votre vie et d'avoir un niveau de vie qui s'élève et profitez-en, je veux dire, très bien, hein, y a pas de... Mais c'est vrai que d'un autre côté, il y a quand même encore en Chine, sur 1,3 milliard d'habitants, il y a 900 millions de paysans. Et ces 900 millions de paysans, quand vous visitez un peu les campagnes, ne serait-ce que à quelques kilomètres des grandes villes, la réalité est complètement différente. Et avant que ces 900 millions de paysans arrivent à avoir un pouvoir d'achat relatif, qui serait à la limite même comparable avec ce qui se passe dans certaines villes chinoises, on n'y est pas encore, hein. Il y a du travail, les choses ne vont pas se faire non plus du jour au lendemain.